Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage Motors, votre chronique automoto qui carbure à la passion.
Et salut les amis et bienvenue dans Vintage Motors, là où les voitures ont une âme, où l'huile sent l'histoire et où même les marques populaires cachent parfois des origines beaucoup moins populaires. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle saga en 3 épisodes. Une saga consacrée à une marque que tout le monde croit connaître. Une marque que ton voisin conduit, que ta tante a conduite et que ton pote jure détester. Tout en roulant dedans depuis 15 ans. Cette marque, c'est Volkswagen. La voiture du peuple. Enfin, sur le papier. Parce que derrière une coccinelle toute mignonne ou une Golf bien rangée, il y a une histoire faite de politique, de génie mécanique, de survie industrielle et d'un sacré retournement de veste historique. Allez, contact, démarreur et on remonte ensemble aux origines de Volkswagen. Début des années 30. En Allemagne comme ailleurs en Europe, la voiture était un objet de riche. Si tu veux rouler, tu dois avoir de l'argent, du temps et souvent un chauffeur. Bref, pas vraiment le quotidien du peuple. La majorité des familles se déplacent à pied, à vélo ou en train. La voiture, c'est un symbole social. Un peu comme aujourd'hui une supercar sur Instagram. Sauf qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Instagram. Et c'est là qu'émerge une idée révolutionnaire. Créer une voiture accessible à tous. Une voiture simple, robuste, économique. Une voiture capable de rouler sur des routes parfois catastrophiques. Une voiture qui démarre l'hiver. Alors oui, ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était presque de la science-fiction. Et pour donner vie à ces idées, on fait appel à Ferdinand Porsche. Un ingénieur brillant, un obsédé de la mécanique efficace, un type qui préfère une solution simple qui fonctionne, plutôt qu'un truc compliqué qui impressionne au salon. Porsche conçoit une voiture avec un moteur arrière, un refroidissement par air, peu de pièces et une mécanique facile à entretenir. En clair, une voiture que même ton oncle un peu bourrin peut réparer avec 3 clés et un marteau. Et surtout, une forme arrondie, aérodynamique, reconnaissable entre 1000. Sans le savoir, Porsche est en train de dessiner ce qui deviendra la coccinelle. Mais attention, Volkswagen n'est pas dans un garage romantique ou un atelier de passionnés. La marque est créée en 1937 sous le régime nazi. Le projet est soutenu personnellement par Adolf Hitler. Le mot Volkswagen signifie littéralement « la voiture du peuple ». Sur le papier, c'est beau, dans la réalité, beaucoup moins. Le régime utilise la voiture comme outil de propagande. Les Allemands cotisent, payent à l'avance. Mais très peu recevront réellement leur voiture. La Seconde Guerre mondiale éclate. Les usines sont réquisitionnées, la voiture du peuple devient un outil militaire. Ambiance. À la fin de la guerre, l'usine de Wolfsburg est en ruine, bombardée, abandonnée, promise à la démolition. Volkswagen aurait pu disparaître là. Et c'est là qu'intervient un acteur totalement inattendu. L'armée britannique. Oui, oui, les Anglais. Un officier britannique comprend que cette petite voiture simple et robuste peut être utile pour relancer l'économie allemande. Et contre toute attente, l'usine est relancée. La production reprend et la coccinelle renaît. Et là, miracle mécanique. Dans les années 50 et 60, la coccinelle envahit le monde. Elle est fiable, économique, increvable et attachante. Elle ne va pas vite. Elle ne freine pas très fort, mais elle t'amène toujours quelque part. Et surtout, elle a une vraie personnalité. Aux États-Unis, elle devient l'anti-grosse voiture américaine. En Europe, elle motorise des générations entières. Elle devient un vrai symbole de liberté, de jeunesse et parfois même de contre-culture. Ironique quand on connaît ses origines. Mais l'histoire est pleine de paradoxes. Et pendant les années 50, Volkswagen ne vend plus seulement une voiture. La marque vend une idée, un état d'esprit. La coccinelle, ce n'est pas la plus rapide, ce n'est pas la plus confortable, et clairement, ce n'est pas celle qui impressionne le beau-frère au repas du dimanche. Mais elle fait quelque chose que les autres ne font pas. Elle ne lâche jamais. Elle démarre par tous les temps, elle roule quand d'autres calent, elle accepte les mauvais traitements sans se plaindre. C'est la voiture des étudiants fauchés, des familles modestes, des artisans, des routards et de ceux qui préfèrent rouler longtemps plutôt que de rouler vite. Volkswagen comprend alors une chose essentielle. La mécanique c'est bien, mais l'attachement émotionnel c'est encore mieux. Mais Volkswagen assume ses défauts. Le bruit, on dirait une tondeuse énervée. La puissance, on ne parle pas de chevaux, on parle plutôt de poney. Le chauffage, disons que ça marche quand ça veut. Mais c'est justement ça qui crée le lien. Parce qu'une voiture trop parfaite, on l'admire. Une voiture imparfaite, on s'y attache. Et Volkswagen joue cette carte à fond, surtout aux États-Unis, avec une communication totalement à contre-courant. Pendant que les marques américaines crient « plus gros, plus fort, plus long », Volkswagen ose dire « elle est petite, et alors ?» Le résultat, la coccinelle devient culte. La coccinelle, comme je vous disais, est culte. Puis arrive le combi. Alors là, on ne parle plus seulement de voiture, on parle de liberté roulante. Le combi, c'est les surfeurs, les hippies, les musiciens, les aventuriers et ceux qui veulent vivre autrement. Un moteur à l'arrière, pas rapide, mais increvable. Une caisse vide que chacun aménage comme il veut. Un lit, possible. Une cuisine, facile. Une sono, évidemment. Le combi devient un symbole, un drapeau roulant. Et sans le savoir, Volkswagen devient l'un des constructeurs les plus cool de la planète. Alors que la marque vient d'un passé, tout sauf cool. Mais ce qui fait la force de Volkswagen à cette époque, c'est la cohérence. Même philosophie partout. Simplicité, fiabilité, accessibilité. Pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour comprendre la mécanique. Pas besoin d'un salaire de ministre pour en posséder une. Volkswagen crée une communauté avant même que le mot « communauté » soit à la mode. Des rassemblements, des clubs, des passionnés. Des gens qui donnent un prénom à leur voiture. Oui, oui, certains parlent à leur coccinelle. Ne jugez pas, on l'a tous fait un jour. À la fin des années 60, le monde change. Les routes changent et les attentes changent. La coccinelle commence à accuser le poids des années. Elle est attachante, mais elle n'est plus vraiment moderne. Volkswagen le sait. La marque sent que le vent tourne. Et c'est là que tout va basculer. Un nouveau modèle arrive. Un modèle qui va changer la donne. Un modèle qui va sauver Volkswagen une deuxième fois. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Et pour conclure, Volkswagen, c'était donc ça. Une marque née dans un contexte sombre, portée par un génie de la mécanique, passée tout près de disparaître et finalement devenue l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Alors, une marque populaire, oui, mais surtout une marque résiliente. Et ce n'est que le début. Dans le prochain épisode de Vintage Motors, on parlera de la montée en puissance de Volkswagen, de la Golf, de la démocratisation de la performance et du moment où Volkswagen a cessé d'être la voiture du peuple pour devenir un empire automobile mondial. Alors restez à l'écoute, gardez la clé sur le contact et n'oubliez jamais, dans Vintage Motors, on ne parle pas que de voitures, on raconte leurs histoires.
Retrouvez-moi chaque semaine sur Altitude FM pour démarrer du bon pied et à fond la caisse.